Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. C'est Esther au micro et aujourd'hui, je reçois Zélie. Salut.
Salut.
Et Andrea, salut.
Salut.
Ce sont des membres de Youth for Climate France, un mouvement de jeunesse qui s'engage pour la justice sociale et climatique, la protection de l'environnement et de la biodiversité. Vous avez pu les croiser dans le cortège d'une marche pour le climat ou au détour d'un post Instagram, d'autant plus qu'ils ont de très nombreuses antennes partout en France. D'ailleurs, chacun de vous vient d'une antenne différente. Bourges pour Zélie et Marseille pour Andrea. Mais avant de parler de vos parcours perso, de ce qui vous a amené ici, j'aimerais discuter un peu donc de cette organisation qu'est Youth for Climate. Vous fonctionnez avec une charte de valeurs. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce qui est au cœur ? Parce qu'en gros, quand on s'intéresse un peu à vous, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas juste de dire on est écolo, donc on veut plus d'énergie renouvelable. Vous avez une approche un peu plus globale que ça. Alors voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous diriez en quelques mots pour présenter ?
Attends, je récupère juste la charte de Grenoble et j'arrive.
Alors, moi je l'ai, mais du coup, globalement, Youth for Climate, c'est un mouvement qui s'est lancé spontanément, comme tu as dit, avec les grèves pour le climat. Et après, bah, ça s'est formé petit à petit sur des valeurs comme l'horizontalité, par exemple, parce qu'en fait, au départ, c'était enfin, plutôt une bande de potes qui s'étaient rassemblés à l'appel de la grève. On se dit, bah, il faut faire la grève pour le climat, il faut marcher, etc. Et du coup, bah, on se disait, tout le monde est aussi légitime, donc cette valeur d'horizontalité, elle s'est plutôt imposée. Et du coup, bah, après, ça s'est construit autour d'autres valeurs par rapport à ça, donc l'horizontalité, les questions d'inclusivité envers tout le monde, mais aussi par rapport à nos valeurs politiques, du coup, l'anticapitalisme ou l'antilibéralisme ou la décroissance, par exemple, qui font qu'on a une critique plutôt radicale en fait, du système dans lequel on vit pour notre avenir, quoi.
Ouais, alors justement, je vais y venir. C'est vrai, quand on regarde, Zélie, tu l'as mentionné, la charte de Grenoble, donc le document sur lequel vous vous êtes mis d'accord globalement à Youth for Climate pour définir vos orientations. Il y a certes un mot d'ordre qu'on a beaucoup entendu, par exemple dans la bouche de Greta Thunberg, qui est « écouter la science », qui dit juste « en fait, on ne prétend pas arriver avec une expertise nous-mêmes, mais juste la conviction que la science doit être mieux prise en compte par les décideurs ». Mais effectivement, et tu viens de le mentionner, il y a un côté très politique avec de l'anticapitalisme, de l'antilibéralisme, la décroissance. Pourquoi tout ça, pour quelqu'un qui découvre un peu, c'est lié à l'environnement ?
Parce que déjà, forcément, aujourd'hui, on sait que les petits gestes pour l'environnement qu'on nous a vendus depuis des années, du type arrêter l'eau quand on se brosse les dents, éteindre la lumière en sortant, eh ben, c'est très bien. À titre individuel, on ne peut pas dire que c'est mauvais, mais à titre global, on ne va pas pouvoir tenir les objectifs pour éviter un réchauffement trop important de la planète si on fait juste des petits éco-gestes comme ça de temps en temps. Et également, on sait aujourd'hui que la responsabilité individuelle, elle atteint ses limites et qu'aujourd'hui, c'est un changement global de la société qu'il nous faut et que c'est d'abord voilà, les grandes entreprises, par exemple, ou par exemple, je sais pas moi, le trafic aérien qui pollue le plus et c'est pas forcément le particulier qui a laissé sa lumière allumée pendant une heure. Donc l'idée, c'est de, au lieu de cibler plus les individuels et les actions individuelles, c'est de cibler des grands principes qu'on pourrait appliquer à l'échelle d'une société, donc bah, l'anticapitalisme, la décroissance notamment, je pense, qui, voilà, eux, on est convaincus que la décroissance, voilà, est la seule solution viable pour pouvoir vraiment espérer tenir des objectifs climatiques, ou au moins, avant la décroissance, au moins le ralentissement de la croissance économique, avant de parler trop vite de décroissance, parce que bon, on sait bien que voilà, ça va être un peu compliqué de tout de suite le mettre en place. Mais c'est ça aussi, voilà, c'est l'idée, c'est vraiment de partir sur des politiques globales et pas des gestes individuels.
Alors, pour aller un peu dans le détail, la décroissance, par exemple, dont tu parlais, c'est quoi concrètement ? Et par exemple, à quelqu'un qui vous dirait « mais il faut une croissance verte », qu'est-ce que vous avez envie de répondre ?
Je pense qu'il faut comprendre qu'on est dans un système qui est capitaliste. Ça veut dire qu'on est dans un système où l'objectif, c'est toujours s'enrichir, d'accumuler des richesses. Voilà, c'est ça, la réussite sociale. Et du coup, l'objectif, c'est de toujours produire. Sauf qu'en fait, tout ce qui est augmentation du PIB, donc croissance, est toujours corrélé à augmentation des émissions de CO2. Parce que en fait, tout est lié aux énergies fossiles, au pétrole, etc. Donc en fait, on ne peut pas continuer à se dire « il faut une croissance verte, il faut croître indéfiniment » alors qu'on est dans une planète avec des ressources finies, alors qu'il faut limiter les émissions. En fait, l'objectif, c'est de se dire ben voilà, pourquoi toujours essayer d'avoir plus de richesses ? Pourquoi toujours vouloir plus produire alors qu'on pourrait avoir d'autres questions qui seraient peut-être tout aussi, voire même plus désirables ? De se dire ben voilà, comment on fait pour vivre plus heureux, comment on fait pour qu'il y ait moins d'inégalités, comment on fait pour qu'il y ait moins de violence, et ça on peut le faire autrement. Et en fait, là on est dans un système et on continue dans une dynamique où on continue de polluer plus, et c'est pour ça que la croissance verte, c'est plutôt un oxymore qu'une réelle solution, quoi.
Et sur le côté anticapitalisme, moi j'aimerais bien vous entendre dessus aussi, parce que c'est souvent un mot qui fait peur. Genre, quoi, anticapitaliste ? Mais mon Dieu, c'est... Genre, on a l'impression que le système capitaliste dans lequel on vit est un peu immuable et qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Donc l'anticapitalisme a tendance à faire peur. Quelqu'un qui vous dit « mais ça fait peur, on ne connaît pas, il n'y a pas d'alternative », qu'est-ce que vous lui répondez ?
Par rapport à ça, en fait, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que c'est tout ce qu'on a connu, déjà. Enfin, je suis né dans un système capitaliste, t'es né dans un système capitaliste, tout le monde est né dans un système capitaliste et on a grandi là-dedans. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'alternative, c'était le truc de Margaret Thatcher aussi, c'est ce qu'on nous apprend, il n'y a pas d'alternative et de toute façon, ça sert à rien de réfléchir autrement. Alors que, ce système-là, il est politique et il y a des dogmes qui, comme dans d'autres systèmes, il y a des dogmes et des bases sur lesquelles on évolue. Et en fait, il faut comprendre que, comme j'ai dit, déjà, le système capitaliste, c'est déjà la course à accumuler des richesses. Après, forcément, tout le monde n'accumule pas les richesses de la même manière, il y a des inégalités là-dedans. Mais c'est surtout ça va avec l'exploitation, quoi. L'exploitation des ressources, parce que pour produire des choses, on a besoin d'exploiter des ressources. Et du coup, si on veut croître, il faut en exploiter toujours plus, alors qu'il y a forcément, au bout d'un moment, une limite. Et si on veut faire plus de profit, augmenter la plus-value, il faut s'en foutre des normes environnementales, il faut s'en foutre des normes sociales. Et du coup, forcément, le capitalisme amène à une exploitation de l'environnement, des animaux et des autres animaux, enfin des humains qui sont aussi des animaux. Donc en fait, c'est par rapport à ça qu'on est en rupture. Parce qu'on se dit, comme l'a dit Zélie, c'est pas juste le personnel, l'individuel qui peut changer des choses, mais c'est aussi un système qui est politique et qui va dans une direction qui mène à sa perte, en fait.
Là, du coup, quand même, dans ce que tu décrivais, ça rejoint un peu le mot d'ordre une justice sociale et une justice climatique, en gros. Vous opposez pas ce combat-là. On a beaucoup entendu à un moment dans les manifs le slogan « c'est pas fin du mois contre fin du monde, c'est les deux ensemble », en gros. Vous, c'est un truc que vous avez fait votre à Youth for Climate ?
Bah oui, complètement. Je pense qu'on est un des rares mouvements climatiques à autant porter attention sur les questions sociales et surtout à les relier autant avec l'écologie. Et aujourd'hui, voilà, on sait bien que les premiers qui seront touchés par le dérèglement climatique, ça va être des populations plutôt défavorisées. Et on sait bien qu'aujourd'hui, séparer social et écologie, ça n'a aucun sens, dans le sens où voilà, les deux sont étroitement liés. Et évidemment qu'on ne peut pas blâmer quelqu'un qui a des difficultés, qui est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler, par exemple. On ne peut pas blâmer, d'aller en vélo, parce que voilà, c'est incohérent de rejeter la faute sur des individuels qui ont pas, qui c'est souvent des catégories plutôt défavorisées, qui n'ont pas le choix de parfois polluer. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer les deux, c'est-à-dire qu'on ne résolvera pas la crise écologique sans résoudre la crise sociale. Et en plus du fait que les conséquences, du coup, iront plus, toucheront plus forcément les catégories les plus démunies plutôt que les personnes les plus aisées.
Alors, est-ce que tu peux développer un peu cette idée-là, justement, l'idée que les plus démunis sont les plus exposés ?
Comme l'a dit Ellie, en fait, les questions environnementales, elles sont forcément écologiques, elles sont forcément corrélées au social. Parce que d'un côté, on a les personnes les plus pauvres qui subissent le plus les problèmes écologiques. Bah, par exemple, quand on habite dans un HLM, on est plus souvent à côté de zones polluées, ou alors on a moins souvent d'espaces verts, etc. Et quand on est plus pauvre, on peut moins souvent acheter de la nourriture de qualité, donc on s'empoisonne plus par rapport à ça, alors que c'est l'inverse pour les plus riches. Et aussi, dans la contribution, en fait, si on parle seulement de réchauffement climatique, dans la contribution carbone, les personnes les plus riches sont celles qui prennent le plus l'avion, sont celles qui ont le plus de consommation polluante, etc. etc. Et il y avait justement des rapports d'Oxfam par rapport à ça, qui disaient que les 10% les plus riches de la planète étaient responsables de 50% des émissions, et que c'était l'inverse pour les 10% les plus pauvres. Les 50% les plus pauvres étaient responsables des 10% des émissions. Donc en fait, on voit bien que souvent, on pointe du doigt les personnes les plus pauvres en disant « mais tu ne fais pas d'efforts, mais l'écologie, c'est de manger bio », alors qu'en fait, c'est souvent lié aussi à une hiérarchie sociale derrière. Donc on ne peut pas seulement répondre comme ça, quoi.
Moi, quand j'ai découvert votre mouvement, ce qui m'a intriguée et plu dans sa construction, c'était aussi le fait que tu en as déjà dit deux mots tout à l'heure, Andrea, que vous vous basez sur de l'autogestion, de l'auto-formation, de l'horizontalité. Concrètement, comment ça s'exerce ? C'est-à-dire que, par exemple, comment se prennent les décisions ? Aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle des groupes locaux.
On a une structure nationale qui est notre serveur national, serveur Discord, YFC France, mais YFC France, c'est pas une entité, on va dire que c'est juste un groupement de gens, de plein de groupes locaux de toute la France, et qui se coordonne pour les activités qu'on est obligé de gérer au niveau national, comme la communication ou ce genre de choses, ou les relations avec l'international, par exemple. Et donc, dans notre serveur national, on a plusieurs groupes de travail appelés patates. On a la patate gouvernance qui s'occupe de justement faire les processus de décision. Donc, dès qu'il y a une décision qui implique l'ensemble du mouvement, par exemple le choix d'une prochaine date mondiale, ou quand on a fait les votes pour valider la charte de Grenoble, ou d'autres choses parfois comme ça, des accords avec l'international. Aussi de temps en temps, enfin, c'est ce genre de grandes décisions qui vont impliquer le mouvement dans son échelle globale, eh bien, on transmet ce processus dans tous les serveurs Discord des groupes locaux. Et donc, chaque groupe local vote en son sein et nous rapporte une voix au national. Et après, on fait le décompte au national et ça nous donne la décision. Et on applique ça pour toutes les grandes décisions du mouvement. Après, à l'échelle locale, chaque groupe local est indépendant de s'organiser comme il veut. Après, moi, je sais qu'en général, on faisait des votes qui concernaient tout le serveur. Mais c'est vrai qu'on s'organise beaucoup sur Discord. Et à chaque fois, voilà, l'idée, c'est vraiment que tout le monde a la même voix et que faire participer, essayer de faire participer au maximum l'ensemble du mouvement pour chaque décision vraiment importante.
Et donc, dans vos groupes respectifs, par exemple, pour donner une idée un peu plus concrète et proche de vous, quelles sont les actions que vous menez ?
Ben, du coup, ce qui s'est fait surtout au début, c'était pas mal de manifestations, de marches, comme on les a vues. Et à chaque fois, c'était des dates mondiales. Comme on a dit, on voyait avec les autres pays, on se mettait d'accord sur une date et hop, on faisait une mobilisation. Et ça a mobilisé des millions de personnes à travers le monde, quoi. Donc ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait, on est dans une optique de diversité tactique. C'est-à-dire qu'on se dit, il n'y a pas seulement un moyen de faire. Et il y en a plein. Et aussi, chaque personne a des moyens de faire qu'il préfère. Du coup, on a fait des trucs comme des clean walks, et je sais qu'on en a fait à Marseille, d'ailleurs, quand je dis récemment, c'est avant Covid ou un truc comme ça, parce que c'est très compliqué maintenant. Mais du coup, récemment, oui, on a encore fait, etc. Mais sinon, on peut faire des actions jusqu'à de la désobéissance civile. Pour ça, je pense, par exemple, à un truc dont on avait pas mal parlé, je crois que c'était ce qui s'était passé à BlackRock. C'était une action au niveau du siège de BlackRock à Paris, il y a un an maintenant, par le groupe local de Paris. Et du coup, ça passe par différents moyens d'action en fonction de l'objectif, parce qu'on se dit qu'il ne faut pas avoir un dogme d'action. Par exemple, on se dit qu'il faut forcément faire des clean walks, il faut forcément faire de la sensibilisation, etc. On se dit qu'on a un objectif. Donc l'objectif suprême, c'est forcément de préserver le vivant, mais on a un objectif à court terme sur une stratégie. Et du coup, on cherche le moyen le plus évident ou le plus efficace d'accéder en fait, à cet objectif-là. Donc ça peut être, par exemple, lors des municipales l'an dernier, et c'était juste avant le confinement, du coup, nous, on voulait qu'il y ait une réelle démocratie, en fait, sur la vie dans Marseille, dans les décisions écologiques, etc. Parce que ben, souvent, c'est des décisions qui sont faites en déconnexion des citoyens, alors que ça les touche directement, en fait. Et du coup, pour ça, on s'est dit que dans une première phase qui devait faire un tremplin, mais après, il y a eu le Covid, donc c'était moyen un peu mort, quoi. On a fait un festival, en fait, on avait un festival démocratique où chaque personne pouvait se former, où il y avait des prises de parole, où il y avait plus de 40 associations, et du coup, à la fin, est ressorti une dizaine de revendications écolo pour Marseille, qui va ensuite nous resservir, du coup. Mais voilà, donc, du coup, ça change en fonction de l'objectif, et c'est ça qu'on fait de manière assez générale, du coup.
Pour revenir un peu à l'échelle nationale, rapidement, le 19 mars prochain, il y a une mobilisation au niveau mondial qui se traduit comment? Vous faites des manifestations physiques ou...
Ben, du coup, dans ce cas-là, en fait, d'abord, on choisit une date, donc c'est au niveau international. Et ensuite, au niveau national, on essaie de travailler sur la date, donc se dire ben, qu'est-ce qu'on voudrait y faire, quelles sont nos revendications, travailler sur le plaidoyer, etc. Et on voit, du coup, avec les groupes locaux, quels sont les besoins locaux. Et donc, on fait plein de plénières, on fait plein de réunions, on se dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, c'est pas encore prêt, du coup. Puisque on a encore, bon, déjà en plus c'est un peu le bordel avec le Covid, hein, mais il y a encore.
Mais justement, c'est intéressant de voir comment les luttes sont repensées avec le Covid et quelles stratégies alternatives sont trouvées par les collectifs, quoi.
Oui, bon, le fait est que le problème du Covid, c'est que parfois ça fait reporter des actions ou ça fait ralentir les actions militantes, alors même qu'en fait, on n'a déjà pas le temps. Enfin, c'est déjà une urgence absolue d'agir là-dedans. Je crois que nos dirigeants n'ont toujours pas compris, ou alors ils se bandent les yeux le mieux possible pour le faire. Mais du coup, oui, c'est ça le problème. Et là, de toute façon, on se dit, si on a la possibilité, donc là, c'est encore le cas, on n'est pas confiné ou quoi, on va forcément encore se mobiliser. On va se mobiliser, on va le faire parce qu'il faut le faire. Et après, on va adapter les moyens. Donc, bon, ben, masque, etc. pour le Covid. Mais l'important n'est pas là, en fait. L'important, c'est quelle action on va faire, quel impact ça va avoir ensuite. Parce que, ben, on est dans un moment encore un peu charnier où, avec le plan de relance, avec l'arrêt des activités un peu, on se dit peut-être qu'on a un moment où on peut agir. Et il y a un moment où on peut se faire entendre maintenant, donc c'est là qu'il faut se bouger, quoi.
Alors, puisque vous parlez des politiques et de ce qu'ils font ou ne font pas, moi, il y a une actu que... En fait, il y a deux actus que j'aimerais évoquer avec vous. La première, c'est l'affaire du siècle. Là, on enregistre le 10 février, donc alors que la justice a donné raison à l'affaire du siècle la semaine dernière. Donc, pour rappel, pour les auditeurs et auditrices, il s'agissait d'une action en justice dans laquelle 4 ONG, Notre Affaire à Tous, Greenpeace, Oxfam et la Fondation Nicolas Hulot, avaient déposé en mars 2019 un recours devant le tribunal administratif de Paris pour carence fautive de l'État, donc en matière climatique. Vous, quel regard vous portez sur cette victoire dans les tribunaux ?
Tout d'abord, ça reste quand même une victoire très symbolique, qui est du coup forcément un impact positif, parce que voilà, une victoire... devant la justice, ça a un certain impact. Après, nous, on attend de voir, en fait, qu'est-ce qui va être fait concrètement après, parce que c'est bien beau de dire que l'État est coupable de carence et de ne pas avoir réagi aussi vite, enfin, de ne pas réagir véritablement contre la crise climatique. Mais ça, j'ai envie de dire, on est beaucoup à en avoir conscience maintenant. Alors, c'est très bien que ça ait été reconnu, on va dire, officiellement. Mais s'il n'y a pas d'action concrète, de mesures concrètes, et honnêtement, ça n'en prend pas trop le chemin, s'il n'y a pas des choses concrètes qui arrivent après ça, eh ben, ça aura servi à rien. C'est bien dommage, mais ça aurait servi à rien.
Oui, parce que quand tu dis qu'il n'y a pas de choses concrètes qui arrivent après ça, je crois que pour l'instant, il a été ordonné à l'État de verser...
Un euro
symbolique.
Voilà. Un euro pour préjudice moral, du coup, même pas pour préjudice écologique. Donc, en fait, quand on se dit que notre avenir vaut un euro, ça nous fait un peu doucement rire. Mais c'est vrai que, bon, comme l'a dit Zélie, c'est important qu'il y ait des victoires, parce que pour l'instant, il ne se passe rien. Donc, c'est bien qu'on ait une victoire, etc. Et que le truc positif, c'est que cette pétition a rassemblé, je crois, 2,3 millions de personnes. C'était la première en France. Donc, ça montre bien qu'en fait, il y a une volonté de changement et qu'actuellement, les personnes qui freinent des cas de fer, ce sont les personnes qui dirigent. Donc oui, en fait, le problème, c'est que le jugement ne change rien dans les faits. Après, ça permet sûrement une prise de conscience importante parce qu'on en a parlé partout. Mais pour nous, c'est clairement pas suffisant, en tout cas. Donc, c'est bien que ça ait été fait. Il fallait le faire parce que c'était une possibilité. Mais il faut aller encore plus loin parce que, enfin, un euro, enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va changer les inondations, les canicules, la biodiversité qui disparaît et tout petit quanti, quoi.
Et alors, l'autre actu que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est ce projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat. Je sais qu'à Youth for Climate, vous avez quand même suivi de près, vous avez fait différents types d'actions en soutien à cette convention citoyenne. Aujourd'hui, le projet de loi était au Conseil des ministres, il sera examiné au Parlement à partir du 29 mars. Comment vous vivez cette étape?
Eh bien, c'est vrai qu'on avait mis beaucoup de soutien et pas mal d'espoir dans cette Convention citoyenne pour le climat, parce qu'on y voyait enfin un vrai exercice de la démocratie en France, avec la participation active des citoyens dans le débat démocratique. Bon, eh ben, on a été un petit peu déçus, parce que, un petit peu, enfin, c'est peu de le dire. Emmanuel Macron avait annoncé en grande pompe qui prendrait toutes les mesures sans filtre, avec quand même 3 jokers déjà, donc déjà ça commençait pas trop bien. Et après, au fur et à mesure du temps, on arrive à que là, c'est la moitié des propositions de la CCC qui sont soit abandonnées, soit amoindries, un peu édulcorées finalement. Donc le sans filtre devient un peu plus anecdotique, hein, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que ça a été une application sans filtre. On peut aussi déplorer la longueur du processus. Alors, on sait que nos institutions ne sont pas forcément extrêmement rapides, mais c'est vrai que le projet de loi n'est présenté que maintenant, alors que les 150 mesures avaient été dévoilées en juin, il me semble. Mais voilà, clairement, la CCC, ça reste, pour moi, ça reste un semi-échec, parce que d'un côté il y a quand même eu cet exercice de la démocratie, mais de l'autre, que toutes les mesures soient plus ou moins bafouées et qu'il n'y en ait qu'une poignée qui soit vraiment appliquée comme demandé par le groupe, et même les membres du groupe sont d'accord avec ça. Et il y avait eu une rencontre avec Emmanuel Macron, je ne sais plus si c'était fin 2020 il me semble. On avait d'ailleurs un membre de Youth for Climate qui était passé sur un plateau télé pour en parler. Et c'est vrai que même les membres de la CCC le disaient, qu'ils avaient l'impression que que le sans-filtre n'avait pas du tout été appliqué, et que certaines mesures phares, je pense notamment par exemple à la reconnaissance du délit d'écocide, qui a été vachement édulcoré, il me semble, que plein de mesures phares comme ça soient amoindries, soient complètement abandonnées.
Oui, en fait, en tout, sur les chiffres, on a 26 qui sont conformes seulement, sur les 149. On en a 10 qui ont disparu en vol, qui ne sont pas évoqués, et on a plus de 80% qui sont complètement amoindris. Et en fait, c'est vraiment criant, dans le sens où la Convention citoyenne pour le climat, elle est censée travailler pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45%. Sauf que là, quand on voit comment les mesures sont traitées pour une réduction de 45% des gaz à effet de serre, on peut vraiment être sceptique sur le nouvel objectif qui a été fixé au niveau européen, c'est 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a l'impression qu'il y a un gouvernement qui communique d'un côté et qui se contredit de l'autre. C'est une stratégie du gouvernement où, en fait, d'un côté, on va communiquer avec des hashtags tous écologistes, on va faire des communications vertes, on va dire regardez, on fait des choses, on va faire un référendum pour mettre l'écologie dans la Constitution. Sauf que d'un côté, on n'a aucun effet réel. Et en fait, c'est bien ça, c'est du greenwashing dans le sens où on va surfer sur la vague écologiste, alors que tout le monde sait qu'il faut agir, ou de plus en plus de gens se disent « il faut agir vite », sauf que derrière, on ne fait rien pour changer réellement les choses, parce qu'ils savent que les choses ont un coût, et que changer réellement les choses, ça implique des vrais remaniements politiques qui ne sont pas prêts à faire, qui ne veulent pas faire, parce que forcément, ça implique de taper sur Total, ça implique de taper sur les banques, ça implique de revoir toute la manière de produire, toute la manière de travailler, et ça, ce n'est pas des choses qui sont prêtes à faire, et ça mène à des aberrations, comme du coup le délit d'écocide, où en fait, on arrive quasiment à une régression, avec le nouveau texte de loi, on arrive à une régression, mais aussi, par exemple, sur le référendum, mettre l'écologie dans la Constitution, c'est... je veux dire, c'est assez ridicule, puisqu'on a déjà l'écologie qui est dans la Constitution avec la charte environnementale. Finalement, on a juste quelqu'un qui brasse de l'air en face de nous, quoi.
T'as dit en deux mots que c'était une régression au niveau du crime d'écocide. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi ?
Alors, en fait, il y a actuellement une première version qui ne s'appelait pas écocide dans la loi, mais qui vise à sanctionner tout ce qui est pollution par les usines. Par exemple, je pourrais prendre un exemple, c'était Lactalis, je crois, c'était Nestlé, pardon. Nestlé qui avait fait des rejets dans un lac et qui avait provoqué la mort de milliers de poissons. Bon, ce genre de pollution, forcément, elle est déjà sanctionnée. C'est pas ce qui était demandé par la Convention citoyenne, hein. La demande était d'aller beaucoup plus loin. Sauf qu'actuellement, dans le projet de loi qu'on peut consulter, d'ailleurs qui a été rendu public par Reporter, on peut voir, quand on analyse la différence entre les deux, qu'il y a certains pans qui étaient sanctionnés avant par ce délit de pollution qui ne sont plus sanctionnés maintenant. Et donc en fait, on arrive vraiment à une régression où on était censé aller beaucoup plus loin dans un délit d'écocide pour reconnaître que faire du mal à la nature et en fait polluer notre environnement, c'est se polluer nous et détruire notre avenir derrière. Et en fait, on vient à faire un pas en arrière par rapport aux sanctions des entreprises qui viennent polluer justement ces sols, quoi.
Quand on prend l'exemple de ces deux actus qu'on vient d'évoquer, là, l'affaire du siècle et cette loi qui suit la Convention citoyenne pour le climat, quand on voit le manque de conséquences concrètes, en fait, le manque d'action, vous, ça vous inspire quoi sur les modes de mobilisation pour faire réellement bouger les choses en matière d'environnement ?
Eh bien, c'est un peu compliqué de répondre parce que aujourd'hui, on voit que la prise de conscience écologique, elle est présente. Ça y est, maintenant, les gens, ils ont compris, ça fait des années qu'on nous le dit. Alors, ils n'ont pas compris forcément dans les sens ou par exemple nos valeurs, mais à peu près tout le monde sait qu'il y a un dérèglement climatique, la biodiversité qui est en danger et toutes ces choses-là. Ça, cette prise de conscience-là, on y est arrivé, c'est déjà pas mal, mais j'ai envie de dire encore heureux. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à mobiliser parce que voilà, on s'appuyait beaucoup sur le concept des marches et des grèves scolaires qui maintenant a un peu été essoré, poussé jusqu'à ses limites et maintenant on arrive un peu au bout et ça marche plus trop et ça mobilise plus autant qu'au début il y a 2 ans où on pouvait voir des milliers de personnes dans la rue et maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça aussi qu'on se tourne vers la diversité des tactiques et d'autres modes d'action. Mais c'est vrai que cette question de comment mobiliser, elle est compliquée parce que forcément, tout le monde a conscience de l'enjeu écologique, mais tout le monde n'a pas forcément envie ou... Enfin, c'est pas envie, mais c'est peut-être un terme un peu plus fort que ça, mais les gens n'ont soit pas forcément conscience qu'il va falloir changer le mode de vie, soit juste, oui, pas envie de changer complètement de façon de vivre. Alors, ça peut paraître un peu égoïste, mais je pense que l'immense majorité de la population, et nous y compris, on n'est pas prêts à changer radicalement de mode de vie et pourtant on sera peut-être obligé de le faire obligé ou pas, je sais pas, faudrait mieux que ce soit pas obligé, mais ça risque quand même d'arriver. Et c'est ça aussi qui est compliqué parce que il y a beaucoup de gens qui disent oui on sait que ça va mal mais voilà, nous on trie nos déchets, on éteint la lumière, voilà, on vient un peu sur le sujet des éco-gestes, mais c'est un peu ça. Dans le sens où les gens ont l'impression de faire leur remplir leur part du contrat écologique. Sauf que l'autre part du contrat, eh ben, c'est au niveau du gouvernement, c'est au niveau des grandes entreprises et ce genre de choses. Et cette part-là, bah, elle n'est pas du tout remplie. Et donc, du coup, dans les deux cas, bah, voilà, les gens, c'est compliqué de les mobiliser parce qu'ils vont se considérer quand même comme écologistes dans le sens où, voilà, à leur manière, il y a cette politique du petit pas et qui fait que chacun doit participer. Dans la réalité, voilà, aujourd'hui, ça ne va pas suffire. Donc forcément, c'est compliqué de mobiliser des gens qui sont déjà convaincus de faire ce qu'il faut faire pour sauver la planète.
Ouais, en fait, si je peux rajouter un truc, c'est que... En fait, je pense qu'au départ, notre positionnement, c'était beaucoup envers les élus. On se tournait vers eux, de manière à leur demander, s'il vous plaît, faites quelque chose, nous, on est gentils, on est les jeunes, on est l'avenir, et vous voyez qu'on est mobilisés, donc s'il vous plaît, changez les choses, il n'y a plus aucune raison. Pour les alerter, etc. Et en fait, on voit que ça ne fonctionne pas, parce que, ça va bientôt faire 2 ans après le début du mouvement, on a beaucoup de discours, hein, oui, on a des positionnements, oui, je pense que si on a réussi à quelque chose, c'est de, avec le reste du mouvement écolo, hein, c'est de mettre l'écologie vraiment sous les coups de projecteur, parce que maintenant, personne ne peut y déroger, maintenant, ne pas se dire écolo, c'est ensuite politique. Par contre, les actes, ils n'y sont pas, et comme on l'a dit, ça n'agit pas. Et en fait, je pense qu'on a changé de perspective, on se dit maintenant, on va arrêter d'être dans l'attente, en fait, de ces dirigeants qui ne vont rien faire, qui ne font rien, pas parce qu'ils ne savent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas, parce que politiquement, c'est pas quelque chose qui les arrange, parce que politiquement, ça implique une grosse perte de privilèges pour eux, et en fait, c'est un refus, c'est pas juste on est ignorant. Et du coup, c'est forcément, on se tourne plus vers quelque chose, on va avancer nous-mêmes de notre côté. C'est-à-dire que plus avancer avec les élus locaux, qui sont plus sur le terrain, etc., on va essayer quand c'est possible d'avancer de ce côté-là. On n'a plus d'attente envers l'État central, on n'a plus d'attente envers eux, parce qu'on on a tout essayé de leur côté. Donc on va faire nous-mêmes, on va par exemple prendre des endroits et faire des lieux pour se nourrir, etc., pour aller vers une autonomie alimentaire. On va parler avec les élus pour mettre en place directement des actions directement au niveau local pour qu'il y ait réellement des changements dans la vie des gens et pas juste dire « bon voilà, on a marché ». Et en fait, on a beaucoup gueulé, mais il ne s'est rien passé. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de démobilisation avec les marches. C'est qu'on se dit, moi, il y a beaucoup de gens dans ma classe hein, qui marchaient et qui se disaient, bon, voilà, moi, ça fait la deuxième marche que je fais, ça n'agit pas, et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et du coup, après, on se démobilise, ouais, mais je ne peux rien faire. Non, en fait, du coup, c'est pour ça qu'on veut agir nous-mêmes, on va faire les choses nous-mêmes. Si eux ne le font pas, on le fera nous-mêmes, de toute façon, parce qu'on sera obligé de le faire de toute façon.
Alors, là, on a pas mal balayé. Ce que fait Youth for Climate, quelles sont ses positions. Moi, je voudrais savoir comment vous en êtes arrivé là, à Youth for Climate, sur ces positions qui sont, en vrai, dans le mouvement écolo lui-même, des positions plus radicales que d'autres, je pense. Et donc, pour ça, je voudrais revenir un petit peu sur vos parcours militants respectifs. Et donc, j'aime bien remonter à l'enfance des invités, ou en tout cas à leur première indignation. Est-ce que vous vous souvenez des premiers trucs qui vous ont indigné?
Alors, moi, ça doit être... Mais alors, il faut remonter loin. Je pense que ça doit être... ma grand-mère avait... Enfin, elle l'a toujours, d'ailleurs. Elle donne souvent à des associations type Action contre la faim. Et je pense que ça doit être ma première indignation de voir les photos des enfants en malnutrition... dans les pubs, quand ils recevaient par courrier. Je pense que ça doit être ça.
Oui, alors moi, de mon côté, ça remonte un peu parce que j'ai des parents qui sont un peu engagés. Donc, je pense déjà que ma première manifestation, je l'ai faite dans une poussette. J'ai pas mal grandi là-dedans, dans ce milieu-là. Après, peut-être que c'était pas mon indignation à moi, hein, mais du coup, c'est vrai que ça s'est transmis. Et en fait, j'ai commencé à m'engager pas mal dans le social au départ, dans tout ce qui était l'inégalité sociale et tout. Mais c'est vrai que petit à petit, je me renseignais, un peu partout. Enfin, je veux dire, moi, je crois que même en primaire, on m'enseigne déjà les petits gestes, fermer l'eau, éteindre la lumière. Donc forcément, comme on est la génération qui a grandi là-dedans, eh bien, petit à petit, je me suis renseigné plutôt au collège. Et je me suis dit, ah oui, mais franchement, l'écologie, c'est important. Enfin, j'étais déjà indigné envers ce système qui était inégalitaire envers des SDF que je voyais dans la rue ou envers des réfugiés, par exemple. Je sais que moi, comme je suis à Marseille, il y a l'Aquarius qui débarque. Et je veux dire, c'est vraiment concret parce que quand je reçois parfois la notification France Info, l'Aquarius a débarqué 40 personnes, je sors du lycée et je vois des gens qui sont d'origine africaine, etc., qui viennent d'arriver par terre dans la rue en tant qu'SDF. Donc c'est des choses que je vois et c'est ça qui me révoltait en premier. Mais du coup, quand je me suis renseigné aussi sur mon avenir, sur qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique et qu'est-ce que c'est que la biodiversité qui est en train de s'effondrer, pareil, en fait, je crois que le premier moment où j'ai milité, c'était dans les marches pour le climat et puis ensuite en rejoignant News for Climate, comme ça, quoi.
Et toi, Zélie, c'est comment que la question de l'environnement et du climat est arrivée dans ta vie ? Et comment t'as franchi le pas, en gros, de passer des idées à l'action ? Ça m'intéresse que vous développiez là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont indignés, mais dans leur coin, et qui, pour autant, n'agissent pas forcément, en tout cas pas au sein de collectifs, ou voilà.
Alors moi, c'était plus récent qu'Andrea, vu que c'était il y a à peu près 2 ans. Donc j'étais en troisième et donc il y avait un garçon que je connaissais bien qui était engagé pour le climat et qui, avant la marche du 15 mars, donc la première grande date mondiale et qui, je pense, à ce jour est toujours la plus grande, quoique il y a peut-être eu le 20 septembre qui a dépassé en termes de nom, mais je suis même pas sûre. Et donc du coup, qui avait mis des affiches dans notre collège pour annoncer au rassemblement à Bourges. Et donc, après la manifestation, donc c'était un vendredi, donc c'était pour sécher les cours et tout, donc en troisième, c'était un peu compliqué, donc j'aurais aimé y aller, mais voilà, il y a toujours des petits obstacles pour ne pas y aller. Hein. Du coup, après la manifestation, j'étais allée le voir en mode oui, du coup... c'était bien, il y avait du monde et tout. Et puis, assez rapidement après, il y avait la prochaine date qui avait été annoncée, qui était le 24 mai. Et en fait, c'est juste un groupe de potes. On a ramené quelques amis qu'on avait en commun. Et finalement, c'était 5-6 personnes. Et on a organisé un petit truc pour le 24 mai qui était vraiment très petit pour le coup. Mais c'était vraiment juste un petit groupe d'amis. Et juste, je sais même pas si c'était vraiment pour le climat ou juste pour avoir l'impression de s'engager, d'être utile à faire quelque chose. Enfin, moi, je sais que dans mon cas, les questions climatiques, je les ai découvertes plus après. Moi, c'était plutôt l'idée de l'engagement, du militantisme, c'était un petit peu attirant et tout. On était en troisième, il fallait avoir l'aventure un peu. Hein. c'était plutôt l'idée de se rendre un peu utile, de faire quelque chose, de mobiliser des gens et tout. C'était cette idée-là. Moi, les questions climatiques, elles sont arrivées un peu plus tard, au cours de l'année 2019, après du coup ces trucs très locaux. J'ai rejoint le groupe national, j'ai mis pas mal de temps à trouver mes marques, mais finalement j'ai fini par les trouver, et c'est là où par contre je me suis beaucoup plus renseignée sur les questions climatiques, et en fait j'ai un peu compris pourquoi je militais du coup, parce que j'avais quand même passé quelques mois à militer pour militer, mais sans vraiment avoir les enjeux, donc c'était bien de connaître ça. Mais voilà, à la base c'était juste vraiment un groupe de potes, et... on organisait ça et voilà, on faisait tout à l'arrache à la fin et on allait déclarer la manif en préfecture 2 jours avant et on collait des flyers 1 jour avant parce qu'on n'était pas du tout organisé. Et ça a d'ailleurs un peu été tout le temps comme ça parce que voilà, Bourges était une petite ville donc on n'a jamais eu de gros effectifs et on a toujours fonctionné juste une bande de potes et voilà, et c'est après que c'est devenu un peu plus sérieux, mais au début c'était vraiment juste ça.
Et toi, Andrea, en fait, t'as déjà un peu répondu à ma question suivante, Zélie, mais je me demandais un peu, est-ce que vous avez rapidement eu conscience que se battre sur le plan de l'environnement, c'était politique, en fait ? Par exemple, ce que vous disiez sur les petits gestes tout à l'heure, que, ok, on peut les saluer, mais en fait, c'est pas suffisant pour changer de trajectoire.
Moi, de mon côté, j'avais confiance que c'était politique parce que c'était en rupture avec ce que je vivais tous les jours. Moi, j'habite dans une rue qui est commerçante, je vois toujours quand il y a des soldes, des milliards de gens qui achètent, etc., des milliards de trucs qui sont produits. Je me disais, non, mais en fait, ça sert à quoi tout ça ? Donc, globalement, même si ça s'arrête là au départ, c'est déjà politique, rien que ça. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Hein. Mais du coup, c'est vrai que c'est après, plus je militais et plus je me rendais compte à quel point c'était grave, parce qu'on apprend beaucoup aussi quand on milite, du coup on lit des rapports, on se parle entre nous, on débat, etc. Et c'est vrai qu'après ça s'accompagne parfois avec je pense qu'en fait quand tu te rends vraiment compte à quel point c'est important, à quel point c'est politique, à quel point je crois que ça te prend au ventre un peu, tu peux plus le lâcher, quoi. c'est vraiment un truc où tu te dis, bon, bah, je peux pas faire marche arrière, c'est pas possible, parce que c'est vraiment mon avenir, quoi. C'est aussi la question de la société de demain. Mais aussi, ça accompagne parfois un peu avec des cours d'anxiété, de dire, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire. Tu sais, quand il y a un peu les questions d'orientation, là, moi, je suis en terminale, du coup, c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous feriez dans 10 ans? Qu'est-ce que vous feriez dans 10 ans? Ben, du coup, ben, c'est vrai que dans 10 ans, qu'est-ce que je fais dans 10 ans? Dans 10 ans, peut-être que c'est plus 100 degrés. Dans 10 ans, je ne sais pas ce qui se passe dans 10 ans, moi. Donc, comment je peux répondre? Voilà, donc en fait, je pense que c'est vraiment quand il y a eu ce moment... Bon, c'est un peu étonnant, hein, désolé. Mais c'est vrai que quand il y a eu ce moment, en fait, de bascule, où en fait, je me suis pris ça un peu en plein dans la gueule, après avoir commencé un peu à me bouger, à militer, que je me suis dit, bon, voilà, je crois que c'est bon, je suis pris dans le truc, quoi.
T'excuses pas d'être déprimant, c'est pas toi qui es déprimant. La responsabilité, elle est ailleurs. Et justement, en fait, est-ce que vous considérez qu'on peut encore s'en tirer, ou vous êtes plutôt de la team pessimiste? Plus globalement, comment vous faites pour surmonter le découragement qui peut nous saisir face à l'ampleur de la tâche et l'absence de volonté politique sur le sujet?
Ouais, je vais répondre, mais je vais pas être très optimiste, perso.
Vas-y, j'ai lancé la dynamique, vas-y.
Ouais, non, bah en fait, un peu comme Andrea, j'ai commencé avec le truc très éco-geste et tout. Moi, j'avais pas du tout conscience que c'était politique au début, mais genre pas du tout. Et j'avais un peu j'aimais pas du tout la politique. Bon, ça a bien changé depuis. C'est vrai que moi aussi, j'ai eu ce moment où je me suis rendu compte de l'urgence et de à quel point notre futur allait être compromis. Et en fait, depuis, il y a eu une espèce de processus en moi et... En fait, j'ai une espèce de résignation parce que je reste relativement convaincue qu'on ne pourra pas vraiment faire changer les choses, qu'on pourra juste à la limite le limiter, le ralentir, le faire que ça arrive un peu plus tard. Mais je reste convaincue qu'on est arrivé tellement loin dans le truc qu'on peut... Enfin, j'espère me tromper, hein, vraiment, j'espère vraiment me tromper. Mais qu'on est arrivé tellement loin dans le point de non-retour, finalement, qu'on ne pourra pas se sauver et que forcément... d'ici 20, 30 ans, 40 ans, nos sociétés sont complètement transformées et on sera peut-être juste des petits groupes à vivre en autonomie par-ci, par-là. Et je pense pas que cette vie-là pourrait me déplaire, donc l'idée, enfin, je suis un peu en mode, j'aime le militantisme, donc je vais quand même continuer à me battre pour tous les gens qui pourront pas forcément faire comme moi ou qui auront pas forcément les moyens de juste partir et de se faire des petits groupes autonomes à vivre dans la forêt, non, peut-être pas dans la forêt, mais à vivre perdu dans la campagne. Mais c'est vrai que me concernant, je suis un peu résignée, voilà, on va profiter du temps qui nous reste, et puis on verra comment ça arrive, mais c'est pas très optimiste, hein. Je suis désolée, je casse un peu l'ambiance là, franchement.
Ah bah, comme les féministes, les écolos cassent l'ambiance, y a pas de raison.
Voilà, franchement, c'est pas possible, on peut s'amuser. C'est un peu bizarre comme question, non mais en fait c'est une question que tout le monde pose, mais c'est un peu bizarre parce que souvent on se pose nous-mêmes la question, bah, est-ce que s'il est encore temps, est-ce que ce que je fais ça a vraiment de l'impact? Bon, l'impact il est important dans les actions, mais est-ce que ça a vraiment du sens de militer pour l'écologie alors que tout est déjà détruit? Bah, en fait ça va un peu de pair avec ce qu'on dit parfois, ah il reste tant de mois pour agir, tant d'années pour agir. Mais en fait agir pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu un réchauffement, il est de 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, je crois. Il y a déjà eu des centaines, des milliers d'espèces qui sont disparues. Il y a déjà des gens qui se font la guerre de l'eau, etc. Enfin, il y a déjà des changements, je veux dire. Où est le point de bascule? On se dit, ben là, c'est trop tard. Non, en fait, il est déjà trop tard, en fait. Et c'est là, en fait, où je me dis... souvent, on se dit, oui, on est au bord du ravin, il faut vite freiner avant de sauter dedans. Mais en fait, je pense qu'on a déjà sauté. Et il faut juste... on est en train de débattre pour se dire, ah ben tiens, est-ce que je tire sur le parachute ou pas? À quel moment je vais tirer sur le parachute? Est-ce que j'agis maintenant pour arrêter les énergies fossiles? Est-ce que j'agis maintenant pour arrêter de surproduire, etc.? Ou est-ce que je fais une CCC et hop, j'attends un peu, j'ai fait un projet de loi un peu bidon à la Macron et hop, j'attends un peu avant de tirer le parachute parce que franchement, c'est vachement bien quand même. C'est vachement bien. Mais non, en fait, il faut tirer maintenant parce que si on tire pas maintenant, eh bien, dans tous les cas, ça va pas être sympa, mais si on tire maintenant, ça va être beaucoup mieux... Que si on ne tire pas du tout, enfin, voilà. Donc actuellement, on dépasse un peu toutes les prévisions en termes de réchauffement, en termes de biodiversité. Il y avait un dernier rapport qui est sorti qui disait même les scientifiques qui sont très, très, très au courant de ce qui se passe ne peuvent pas prévoir à quel point ça va être le désastre au niveau de la biodiversité. Et en fait, le problème, c'est que les politiques ne lisent pas les rapports, par rapport à ça, ou alors font comme s'ils n'existaient pas, que globalement les gens, bah, à part les militants, peuvent pas lire ce genre de rapport, ou c'est pas très accessible, et voilà, bah, après du coup on fait comme si ça n'existait pas, ou alors on continue et on tire pas sur le parachute, quoi.
Mais du coup, vous faites comment pour garder le moral?
Oui, ça, on a du moral quand même parfois, hein. On n'est pas toujours comme ça. Non, mais comment on fait pour garder le moral? Enfin, je pense que c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on se dit que... Enfin, on sait qu'il y a une urgence, on sait que, qu'est-ce que ça implique. Après, ben, c'est un peu comme les phases du deuil. Enfin, c'est ça qu'on remarque un peu chez les gens. Et je crois que j'ai fait un peu mon deuil aussi. C'est-à-dire qu'au départ, on est un peu dans le déni, ensuite on est dans la colère, la tristesse, etc. Mais en fait, qu'on a passé le déni et qu'on dit, bon, voilà, il y a un fait, comment on fait pour le traiter? Et bien maintenant, on se dit, ben voilà, comment on fait pour que les gens tirent sur le parachute? Et du coup, c'est comme ça qu'on garde le moral, parce que quand on avance, quand on arrive à faire des pas, quand on arrive à convaincre des gens, c'est un peu le truc qui dit, bon, voilà, on a réussi à avancer, et il faut faire plus, parce que c'est pas suffisant. Mais voilà, je pense que c'est ça qui, personnellement, en tout cas, me permet de me dire, bon, voilà, il faut que je continue. Et de toute façon, je me dis, c'est pas possible d'arrêter, parce que si t'arrêtes, ben, ça va être encore pire. Donc au moins, il faut essayer d'apporter un peu sa pierre et d'essayer de secouer un peu vraiment le système et de bouger les choses, quoi.
Moi, c'est vrai qu'au niveau de la lutte écologique, j'ai eu l'impression d'arriver un petit peu au bout de quelque chose en 2020. Alors, la situation actuelle n'a pas aidé vraiment, vu qu'on a vraiment... Ça fait une éternité que je n'ai pas fait une action écolo. Une action même, que ce soit avec groupe local ou juste moi, ou juste aller à une marche ou quoi que ce soit. Ça fait vraiment une éternité qu'il n'y a pas eu ça. Et c'est vrai que moi, pour garder le moral, j'ai plutôt... Je me suis beaucoup intéressée à d'autres luttes sociales, surtout pendant le confinement, on avait pas mal de temps à tuer. Et je me suis beaucoup tournée sur le féminisme, les luttes LGBTQIA+. Et avec, ça m'a permis aussi de pouvoir un peu changer et de continuer à militer. Et avec aussi, alors beaucoup au niveau du virtuel, mais des résultats qui paraissaient un petit peu plus concrets, un peu plus immédiats. Parce qu'on a encore du mal à se rendre compte que la crise écologique, alors nous en tant que militants on le sait quand même, mais même nous il neige, ça va, ça se réchauffe pas, mais en vrai les effets on les aura que, bon, on les a déjà, hein, mais on, les vrais effets du réchauffement climatique on les aura que dans plusieurs années, j'espère, mais c'est vrai que voilà, et puis même voir d'autres luttes sociales, ça permet aussi de, je trouve, de mettre un autre regard dans celle d'où on vient à la base, avec des concepts comme l'intersectionnalité qui nous permettent de croiser les luttes et de comprendre que chacune avance avec l'autre. Et voilà, moi c'est plutôt ça qui m'a aidé à un peu garder le moral et toujours continuer à me sentir un peu utile. Parce que comme j'étais un peu comme Andrea, je pense que j'ai fait mon deuil écologiquement parlant. Et du coup après c'est compliqué de se sentir utile parce qu'on se dit, bah oui, mais de toute façon... qu'est-ce que je vais pouvoir changer, moi, à mon échelle? Et dans ces autres luttes, j'ai trouvé des choses où je pouvais changer des trucs à mon échelle, que ce soit dans mon entourage, ou que ce soit n'importe quoi, en signant des pétitions, ce genre de choses, où t'as quand même, je trouve, l'impression d'être utile, en fait. C'est ça, c'est cette impression-là qu'on cherche tout le temps d'être utile. Et c'est vrai que j'étais arrivée à un bout avec la lutte écologique. Et bon, je vais continuer à militer. Mais c'est vrai que du coup... continuer dans plusieurs luttes sociales, moi c'est ça qui m'a pas mal aidée, surtout en 2020.
Et alors, pour joindre nos forces aux vôtres, on fait comment? Déjà, qui est bienvenu chez Youth for Climate? C'est quoi la jeunesse, par exemple? Quelqu'un qui nous écoute et qui se dit « Ok, franchement, je les rejoindrai bien, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ?»
Donc déjà, qui est la jeunesse, on n'a toujours pas réussi à trancher, c'est compliqué. Mais du coup, oui, toutes les personnes qui se sentent concernées, donc déjà par l'écologie, aussi par l'intersectionnalité, comme a dit Zélie, etc., peuvent nous rejoindre. Et aussi, c'est une de nos valeurs, l'inclusivité, de se dire, voilà, en fait, on va inclure tout le monde, parce que si on veut une réelle horizontalité, si on veut vraiment mettre à bas toutes les hiérarchies, toutes les dominations, il faut aussi passer par mettre à bas les dominations sociales ou avec les personnes LGBTQIA+, ou racistes, etc., etc. Donc oui, on essaie d'inclure tout le monde, et justement, on a besoin de plus de diversité possible pour avoir plus de regards possible. Voilà, et après, bon, pour la jeunesse, oui, c'est généralement, ça s'adresse surtout à des lycéens étudiants, il y a aussi quelques collégiens, mais bon, voilà, c'est beaucoup des étudiants, du coup. Je crois que les plus âgés sont en master, voilà, mais du coup, oui, ça c'est une tranche d'âge qui est assez large, même si bon, ça reste quand même des jeunes. Et après, bah, voilà, après il suffit d'aller sur les Insta, sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des liens qui permettent de rejoindre les Discord. Et c'est là, en fait, on va réussir à rejoindre un groupe, à se renseigner sur son groupe local, le rejoindre, etc. Bon, c'est vrai, comme on a dit, ça donnait un peu envie de déprimer encore. Mais c'est vrai, comme on a dit, c'était très compliqué avec le Covid, du coup, parce que l'objectif de Youth for Climate et des assos écolos, c'est de se dire, bon, voilà, en fait, faire les petits gestes, les éco-gestes, c'est pas suffisant. Et si on veut vraiment aider à notre manière, c'est d'essayer d'agir collectivement, en fait. C'est ça, l'objectif. C'est que individuellement, on est seul, ça fonctionne pas très bien, mais collectivement, on peut faire des actions qui ont du sens. Et c'est vrai qu'avec la crise du Covid, ça a été assez compliqué, du coup, pour le moral de tout le monde, et du coup, pas que chez les militants, hein, d'ailleurs, on l'a vu avec les étudiants, etc. Parce qu'on peut pas se réunir, parce que c'est plus compliqué d'agir collectivement, mais voilà, en tout cas, on essaie de continuer les actions. Il y a bientôt une date mondiale et on pourra agir là-dessus. Et donc, oui, il suffit de suivre le groupe local sur les réseaux. Si on ne veut pas forcément organiser, on n'a pas forcément le temps, il y a les dates, les actions, etc. qui sont appelées. Et sinon, on peut rejoindre l'organisation directement en suivant les liens, quoi.
Eh bien, merci beaucoup. On approche de la fin de l'interview. Vous avez chacun choisi une question pour conclure. De ton côté, toi, Andrea, c'est ce que vous auriez voulu savoir quand vous avez commencé à militer?
Alors, moi, je pense que ce que j'aurais aimé savoir, c'était à quel point ça m'aurait apporté, en fait, de faire tout ça. Parce qu'au départ, je me disais, bon, voilà, ça fait longtemps que je suis un peu la politique, je suis un peu indigné, etc. Et je me disais, oui, bon, voilà, je vais faire quelques actions, et puis ça n'a pas changé grand-chose à ma manière d'être, à ce que je vais devenir, ou à ma manière de voir les choses, alors qu'au contraire, complètement, j'ai appris des milliards de choses, mon point de vue a complètement évolué, et en fait, j'ai rencontré plein de gens, etc. Donc en fait, déjà, si j'avais su ça avant, je crois que je me serais engagé avant, parce que c'est super enrichissant et tout, et aussi, je pense que j'aurais aimé savoir aussi à quel point ça me tiendrait à cœur, et à quel point ça me prendrait du temps, comme ça moi je pourrais un peu m'organiser par rapport à ça, parce que c'est vrai que... Non mais c'est vrai, parce que du coup on continue les cours, etc. etc. Et c'est vrai que quand ça commence à prendre, après, bon, y a des coups de mou et tout, mais ça engage un peu à vie, c'est un engagement à vie qui peut changer de forme, mais c'est un engagement à vie, et c'est vrai que ça, c'était déterminant dans ma vie, quoi.
Merci. Et Zélie, toi, la dernière question que tu as choisie, c'est le film que tu as regardé plusieurs fois.
Alors moi, ça va être un peu moins sérieux que la magnifique réponse d'Andrea, mais un petit peu quand
mais
même.
Mais c'est le rôle de ces questions de fin d'interview, c'est-à-dire qu'on peut soit conclure sur une note pour enfoncer le clou, soit dire, bon, on peut aussi rigoler et dire que le militantisme, ça peut être joyeux aussi, quoi.
C'est un peu des deux, pour le coup, pour moi. Parce que le film qui a beaucoup changé de choses dans ma vie, et ben c'est le film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Donc un film, voilà, qui a fait beaucoup parler de lui, pas forcément pour les bonnes raisons, avec évidemment, on se souvient, les Césars, etc. Mais voilà, c'est un film que j'ai découvert juste avant le premier confinement, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit au niveau du militantisme et au niveau politique, beaucoup de luttes auxquelles je me suis intéressée après ce film. Et puis, sur le plan du film lui-même, voilà, j'ai dû le regarder, je sais pas, 6, 7 fois, un truc comme ça. Je sais plus, je compte plus trop, en fait, parce que c'est vrai que j'ai plus trop compté. Mais c'est vrai qu'il a changé beaucoup de choses dans ma vie, et j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes grâce à ça aussi. Me faire... de trouver de nouvelles connaissances, et voilà, et c'est vraiment, et après sur le plan cinématographique lui-même, bon bah moi je considère que c'est un chef-d'œuvre, hein. Déjà je serais pas du tout objective, et franchement je m'en fous un peu d'être objective sur ce coup-là, pour moi vraiment ça reste un chef-d'œuvre, et si je l'ai regardé pas mal de fois aussi, c'est aussi pour ça, et en même temps aussi pour toutes les questions politiques qu'il véhicule sur par exemple le female gaze au cinéma, les questions de représentation à l'écran, par exemple, bah voilà, je pense aux personnes LGBTQIA+. Et toutes ces questions-là qui ont été mises en lumière, pas assez en France. Mais le film a fait un carton, notamment aux États-Unis, mais aussi en Corée du Sud et beaucoup dans le monde. C'est un des films français qui vraiment a été le plus vu dans le monde en 2020. Peut-être même le film français le plus vu, mais je ne sais pas, j'ai pas les chiffres, mais en tout cas il a fait un carton bien plus énorme qu'en France, où il a été un petit peu englouti dans ce tourbillon médiatique de fin février 2020. Mais voilà, moi ça va être ça. Et du coup, c'était quand même un peu en rapport avec, avec le sujet, donc on n'aura pas tout perdu.
On n'a rien perdu.
Non.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour votre temps, pour vos réponses, pour votre enthousiasme et en même temps, pour dire les choses telles qu'elles sont.
Merci beaucoup.
Je mettrai tous les liens pour retrouver Youth for Climate dans la description, ainsi que des liens sur des sujets dont on a parlé. Et voilà, à bientôt. Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.